Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui et enfin, nous l'avons atteinte. Elle est là, la voici, la voilà. C'est la 100e émission de Spectaculaire depuis mai 2013. Nous sommes enfin arrivés à la 100e. Nous, une fine équipe, Christophe Rondeau au micro, Gérald dans le studio, ainsi qu'Isa qui nous a rejoint il y a quand même déjà quelques temps. Donc voilà, nous la tenons, cette 100e émission qui va être en plus, mais totalement spectaculaire, ubuesque, puisque nous avons un invité aujourd'hui, Stéphane Bernard. Stéphane Ubu-Ernard, il incarne le père Ubu dans cette magnifique pièce qui est donnée actuellement au Théâtre National Populaire. Ubu ou presque, c'est le nom exactement que porte la pièce. Elle est donnée jusqu'au vendredi 10 juin. C'est à 20h, presque tous les soirs ou un soir sur deux. Donc il est avec nous pour cette émission, pour en parler jusqu'à la fin de l'heure. Et vous allez voir, ça va être absolument prodigieux, stupéfiant, génial, épatant. On va commencer par une annonce, mais juste après avoir tout de même lancé l'émission par de la musique. C'est Gérald, comme d'habitude, qui assure la programmation musicale. On va écouter Les Quatre Barbus interpréter une berceuse pataphysique, Le Petit Loriston. Ça va donc lancer cette émission, une annonce ensuite sur un festival de musique, et puis Stéphane Bernard aura la parole jusqu'à 15h, comme tous les mercredis. Vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM. Gérald est en train d'ouvrir du champagne, c'est stupéfiant, c'est génial, c'est impressionnant, c'est formidable. Ou bien vous nous écoutez, vous pouvez tout à fait le faire aussi sur radiocanu.org, c'est sur internet. Voilà, bonne émission, ça va être stupéfiant, ça commence dans quelques instants.
Petit Loriston, que lui donnerez-vous, vous, vous?
Un petit Loriston, que lui donnerez-vous?
Un sac de caca jaune pour lui faire plaisir. Au guet,
au guet,
au guet,
au guet, le joli Loriston tonton.
Un petit Loriston, que lui donnerez-vous, vous, vous?
Un petit Loriston, que lui donnerez-vous?
Un bout de bois dans l'oreille, des coups de pied dans les couilles,
une grosse tête bien saignante, une gonnerie filante,
un sac de caca jaune pour lui faire plaisir.
Au guet,
au guet, au guet,
au guet, le joli Loriston tonton.
Un petit Loriston, que lui donnerez-vous, vous, vous?
Un petit Loriston,
je crois
que
qu'on
lui donnerez-vous?
Des choux-fleurs à la merdre, des pots de polyèdre,
une légion d'honneur, des tartines d'épingle,
une lunelle aux fesses, un arrache-jambe en bronze,
une grosse tête bien saignante, une gonnerie filante,
un bout de bois dans l'oreille, des coups de pied dans les couilles,
un sac de caca jaune pour lui faire plaisir.
Au guet, au guet, au guet, le joli Loriston tonton.
Un petit Loriston, que lui donnerez-vous, vous, vous?
Un petit Loriston, que lui donnerez-vous?
Un grand tonneau de pisse, plein de mauvaises nouvelles,
des ulcères sur la bite, une chandelle verte, des rastons en salade, une crise de nerfs bien chaude,
une lunelle aux fesses, un arrache-jambe en bronze,
une légion d'honneur, des tartines d'épingle,
des choux-fleurs à la merdre, des pots de poly,
une grosse tête bien saignante, une gonnerie filante,
un bout de bois dans l'oreille, des coups de pied dans les couilles,
un sac de caca jaune pour lui faire plaisir.
Au guet, au guet, au guet, au guet, le joli Loriston tonton.
Un petit Loriston, que lui donnerez-vous, vous, vous?
Un petit Loriston, que lui donnerez-vous?
Une syphilis féroce, une névralgie atroce,
un bâton à physique, une gidouille ubique,
un bon décervelage dans une toile d'emballage,
des rastrons en salade, une crise de nerfs bien chaude,
des ulcères sur la bite, une chandelle verte,
un grand tonneau de pisse, plein de mauvaises nouvelles,
une lunelle aux fesses, un arrache au bambou,
une légion d'honneur, des tartines d'épingle,
des choux-fleurs à la merde, des pots de polyèdre,
une grosse tête bien saignante, une gonnerie filante,
un bout de bois dans l'oreille, des coups de pied dans les couilles,
un sac de caca jaune pour lui faire plaisir.
Au guet, au guet,
au guet, au
guet, le joli Loriston tonton.
Eh ben dis donc, c'était très spécial cette berceuse pataphysique, Gérald, merci. Je pense même qu'on a entendu un bouchon exploser que
oui,
le début d'émission.
Tant qu'à faire. C'est, on avait déjà écouté super. Cette chanson à l'occasion de la venue d'Elena Brugo et de Elsa Gurgueris. En fait, c'était une chanson qui a une berceuse pataphysique directement en lien avec le spectacle et Ubu et Jarry, qui est un des inventeurs de la pataphysique avant Boris Vian et toute la clique. Et en fait, ça parle d'une rue où on torturait pendant la guerre d'Algérie, donc sous les apparences, comme d'habitude, c'est le pouvoir dans ce qu'il aspire qui est démasqué et mis en scène.
C'est Stéphane Bernard qui va parler pendant cette émission, mais, une émission totalement ubuesque, voilà, je l'indiquais en début, je l'indiquais il y a quelques instants, forcément, hein, ça va être le maître mot pendant cette émission. On va commencer par, en fait, ne pas donner la parole à Stéphane Bernard, ouais, au Père Ubu, on va donner la parole à un intervenant extérieur.
C'est pas ta physique déjà.
Une petite annonce, ça fait quelques temps que nous devons tout de même en parler, et puis on peine à le faire. Je vous en prie, il y a un festival de musique qui arrive là, c'est à quelle date?
Oui, tout à fait. C'est le 17 et 18 juin à Saint-Bonnet-de-Mur, au Bois du Baron. Et c'est un festival qui s'appelle Les Musicales, avec Thomas Fersen en tête d'affiche le vendredi.
Ah, c'est bien, Thomas Fersen.
Et quel type de musique on pourra retrouver durant ce festival?
Alors, c'est essentiellement de la chanson française.
D'accord.
Il y a des groupes locaux comme Black Lily et Nasra. Donc, Dans l'univers de la pop et chansons françaises.
D'accord.
Et comment trouver d'autres renseignements? Parce que l'annonce est quand même très brève, on en parlera sur le blog aussi. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un courrier électronique, un site?
Il y a un site internet qui s'appelle Les Musicales, et puis pour...
Ah, il faut l'épeler, je crois, non? Alors,
M-U-R-E-S, plus loin, Zicale, Z-I-C-A-L-E-S.
Et alors, le site, c'est quoi? .com, .fr, ou disons, en rentrant ça sur le moteur de recherche? On peut .com.
Lesmusicales.com, et du coup, on peut trouver les billets dans tous les points de vente habituels.
Bon. Ben, et est-ce qu'il y a une page Facebook, enfin, je sais pas, Twitter, quelque chose?
Il y a aussi une page Facebook, tout à fait.
Ok.
En tapant Musicales, on peut tout trouver.
Tout à fait.
Bon, très
exactement.
Bien. Une dernière chose, parce que je ne suis pas du tout attentif en ce début d'émission. Les dates, j'ai dit que ça approchait, c'est vraiment la fin de semaine qui vient, c'est ça?
C'est à partir du 16, hein, c'est ça?
Ah non, voilà, le 16, alors c'est plus tard.
17 et 18 juin.
Ah,
d'accord,
oh,
17
et
18 juin,
vendredi,
voilà,
samedi.
On est premier aujourd'hui, je n'ai même pas annoncé ça en début d'émission. Mercredi 1er juin, j'étais tellement absorbé par ce numéro chiffre, par ce nouveau chiffre, ce nouveau numéro, la centième. Bon, bah, je crois que tout est dit. Donc peut-être que le Panorama Hebdo en reparlera un mercredi prochain. Écoutez, donc le 8 ou bien le 15 pour avoir des précisions.
Je vous remercie beaucoup.
Ah ben, ça nous a fait plaisir.
Merci à vous.
Ça a pu lancer cette centième ubuesque. Maintenant, la parole va être laissée à Stéphane Bernard, le Père Ubu. Comme d'habitude, hein, Gérald, nous brossons le portrait de notre invité. Enfin, disons, il brosse son portrait lui-même. Vous pouvez recourir au terme que vous souhaitez, physiquement, si vous le souhaitez, moralement, psychologiquement, physiologiquement, pataphysiquement.
Ouais.
Stéphane Bernard, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Qui êtes-vous?
Je ne sais pas. Je ne sais pas qui suis-je. Je ne sais pas où vais-je, dans quelle étagère. Je l'ignore. Ça me fait penser au décor. À un moment, il y a une pancarte où il y a marqué « Ailleurs, plus loin, nulle part ». Donc voilà, qui suis-je? Je suis le comédien qui prête sa voix et même pas son corps, puisque le corps est un masque, une sorte de prothèse à ce rôle de Ubu.
Ce n'est pas votre bedaine. Hein.
Non. Alors là, je rassure, et je voudrais vraiment rassurer toutes les filles qui nous entendent que voilà, je ne suis pas aussi gras. Et voilà.
Orné d'une gidouille, c'est quoi une gidouille?
Alors la gidouille, alors ça c'est le centre, c'est le centre. C'est le centre qui part de Ubu et qui tourne vers l'infini et qui c'est la philosophie d'Ubu, la gidouille.
Gérald, tu ne respectes pas le début d'émission, tu commences déjà à parler du Père Ubu, cette pièce qui est donnée Ubu ou presque, je le redis encore. Une pièce d'Alfred Jarry, qualifiée de fatrasie collective, disons ce qui est donné au TNP, qui est donc qualifiée de spectacle. D'ailleurs, on pourrait peut-être en parler, n'est-ce pas, une pièce de théâtre. Et les dates, il fallait que j'indique cela encore. Ça a recommencé, il y a eu trois séries de représentations, du 5 au 16 avril, c'est passé, du 26 au 29, c'est également passé. Et là, mardi 31, Gérald, ça a recommencé hier, tu y étais.
J'y étais.
Donc on pourra en parler, et c'est donné jusqu'au vendredi 10 juin, c'est-à-dire le vendredi de la semaine prochaine. Je crois qu'il y a relâche les lundis, me semble-t-il. C'est à 20h, la durée est d'1h50, et donc c'est la pièce dont nous parlerons une fois. Que Stéphane Bernard aura quand même dit quelques mots sur lui. Par exemple, vous étiez déjà dans Par-dessus bord, cette aventure qui a marqué un temps important pour le TNP, puisque lors de la dernière, je crois que c'était le 15 ou le 20 avril 2007, le TNP a fermé pour travaux pendant. Ça a duré quelques temps, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça, je crois.
Oui, c'est ça. Et Christian Scaretti avait décidé de fermer l'ancien TNP avec cette pièce que Roger Planchon avait montée. Et que Christian a remonté, mais dans son intégralité, pour le coup. Voilà, avec cette pièce de Michel Vinaver.
Est-ce que, comme Isabelle Sadoyan, vous aviez joué dans la première?
Ah non, 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 vous êtes gentil, non, non.
Ah ben voilà, il faut
non,
le
non,
dire.
Non, vous êtes gentil, non, non. Non, non, lors de la première, moi, j'étais encore dans les langes.
C'était combien, 70, c'est ça?
Non, ouais, ouais, je crois. Avant, je crois. Et c'était, c'était, une, c'était pas la pièce dans sa intégralité. Oui, il y avait effectivement Isabelle Sadoyan et puis tout un tas de Roland Bertin, enfin tout un tas de voilà, et voilà, sur une mise en scène de Roger Planchon. Et là, par-dessus bord, durait 7 heures quand vous l'avez vu. Je sais pas si vous l'avez vu.
C'est ça, exactement. Si, si.
Voilà. Oui. Oui, c'est une date importante. C'est vrai. Dans, pour moi, ça a été important, effectivement, aussi, et, cette pièce.
Était-ce votre premier, je ne sais pas quel mot employer, compagnonnage avec le.
Non,
avec
c'est plus ancien que ça. Ça date de, je crois, 2006, grâce à un acteur aussi, et qui est metteur en scène, David Mambouche, qui nous a permis de nous rencontrer avec Christian. Et
Gérald, nous l'avons reçu, David, je crois. Nous l'avons reçu pour Don Juan.
Voilà, c'est ça.
Et
voilà,
oui, bah, oui. Voilà. Ah oui, Gérald, tu as des statistiques. Il faudra que tu sortes ce papier tout à l'heure.
On prendra 5 minutes pour. J'ai beaucoup travaillé jusqu'à minuit et demi pour élaborer des statistiques sur notre émission.
La centième émission.
Avec des pourcentages.
David Mambouche, qu'on trouve assez régulièrement dans des spectacles avec Maggie Marin. Enfin, disons, c'est pas si régulier que ça, mais ça se produit tout de même.
Voilà, c'est lui le go-between entre Christian et moi. Et donc, après, on en a fait quelques-uns, hein, avec Christian. Voilà, ça a été après cette rencontre-là.
Une saison au Congo.
Oui, une saison au Congo.
Vous êtes un homme neutre, c'est ça? C'est ce que vous incarnez.
Voilà, c'est ça. Voilà, l'homme neutre. Oui. C'est bien. C'est, voilà.
Après, je l'avais vu quelque part, cet homme-là.
Ouais.
C'était dans une saison au Congo.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Qui n'a aucune. C'est le. Quel est son titre? C'est le président du conseil de l'ONU, c'est ça?
Oui, enfin, c'est ça. C'est le secrétaire général.
Secrétaire général, voilà, c'est voilà. Ça son nom.
Amarsgaard.
Un nom assez, enfin
Tag,
du moins
Tag Amarsgaard,
et une personne
qui a été assassiné.
Et ben voilà, politiquement c'est quand même assez important. Enfin,
oui, oui, oui.
Alors ça a un sens dans cette saison au Congo.
Oui, là c'est tout à fait autre chose, une saison au Congo, et à la fois ce qui réunit peut-être ces deux pièces, une saison au Congo, comme toutes les pièces que montre Christian, c'est quand même une portée politique quand même à chaque fois importante. Et dans Uburo, il y a ça quand même aussi. Hein. On dit quand même au public des choses sur le mauvais droit et sur le bon droit. C'est une pièce très politique, Uburoi. Oui.
Auditeur, vous pourrez revoir cette pièce. Uburoi, vous pouvez la voir jusqu'au 10 juin. La saison au Congo, vous pourrez la voir la saison prochaine, la saison 2016-2017. Et puis, pour ce qui est du roi, la tragédie du roi Christophe, ouais, je crois que c'est prévu encore plus loin. J'entends que c'est même le mois de janvier pour la reprise de la saison au Congo. Et roi Christophe, c'est plus tard peut-être, c'est ça, je crois. Ah!
Ouais.
J'ai des informations dans l'oreillette. On me glisse que
janvier,
la saison 2016-2017,
la tragédie du roi Christophe,
elle vient d'arriver. Voilà. Jouerez-vous dans la reprise?
Oui, façon, oui,
et roi Christophe également?
Dans le roi Christophe aussi.
Donc maintenant, vous êtes totalement installé à Lyon, quoi, depuis quelques années. Vous êtes vraiment.
Oui. J'ai la joie de travailler ici, dans cette bonne ville de Lyon et de Villeurbanne. Voilà.
Oui, parce que Villeurbanne n'est pas Lyon. Il faut
non, il faudrait. Voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ce distinguo.
Allez-y,
important.
Stéphane Bernard, vous avez le micro. Établissez donc ce distinguo. La place des Argoujons, c'est particulier.
Marché des c'est particulier. Charpelles. C'est pas du tout le microclimat, n'est pas du tout le même. Non, c'est.
Il y a un grand soleil, je crois.
D'ailleurs, ils ont raté l'éclaircie. À moins qu'elle se prolonge à Villeurbanne. Mais vous venez d'où si vous n'êtes pas lyonnais d'ailleurs?
Ah moi, je viens de nulle part. J'ai pas mal travaillé à Saint-Étienne aussi à un moment, et puis après j'ai travaillé aussi à Paris pendant quelques années, et puis d'où je viens, c'est-à-dire que moi je viens d'une petite ville au passé militant important qui s'appelle Rives-de-Gier.
Le dialecte.
J'ai fait une chronique sur le dialecte ligurien à partir d'un dictionnaire.
Exactement. Une des premières villes à faire une manifestation contre le travail des enfants dans les mines.
Et oui.
Ville minière qui, au 19e siècle, marchait très fort. Maintenant,
première voie ferrée de France.
Voilà, exactement.
Et oui.
Première voie ferrée de France. Donc je suis au départ ripagérien, voilà, comme on appelle les habitants de Rive-de-Gier. Après, voilà, assez vite, j'ai immigré. Il est bon de chez soi, c'est là d'où l'on part. Ben, moi, je suis parti de chez moi.
Pour aller à Saint-Étienne, à la Comédie, à l'époque de Benoît.
Voilà, c'est Benoît. Ça, voilà, à l'époque de Benoît.
Pensez
voilà,
que Maringen, par exemple.
Ouais, que j'ai vu, Sigmaringen, que j'ai vu.
Ça ne nous rajeunit pas, ça.
Non, mais Sigmaringen est aussi une autre chose. Donc j'ai oublié le nom, là, tout d'un coup. Bon, enfin bref.
Il y a 20 ans, 25 ans.
Ouais, ouais. Oui, oui, il y a 25 ans maintenant, il y a peut-être même...
Ouais, 27 même.
Même peut-être un peu plus, ouais. Oui. Ouais, non, ça va vite quand même. Voilà. Voilà, ce qui nous a aussi réunis avec Christian, sans le savoir, c'est cette, ce compagnonnage qu'on avait, mais chacun, pas ensemble, mais chacun de notre côté, avec Strindberg, par exemple, où moi, j'avais pas mal travaillé sur cet auteur, avec Michel Raskin, avec Yves Charton... Donc tout de suite, ça nous a donné un langage commun entre, par exemple, entre les rapports entre les hommes et les femmes, et une sorte d'âpreté dans les rapports, comme ça, dans les rapports humains. Oui.
La télévision, voilà, j'y pense comme ça, ou le cinéma, est-ce que...
Oui, oui, bah, je fais quelques exercices de ça, voilà, je suis surtout un... par choix, mais aussi par pas seulement un acteur de théâtre, hein. Par choix, est-ce que je pourrais dire, si, j'ai fait quelques incursions dans le cinéma qui m'ont beaucoup plu, notamment un film qui s'appelait Erreur, je sais plus combien, ça s'appelait Erreur L67 de Pierre Grange, voilà, où là, ça c'était qu'on a tourné dans les environs de Roanne, il y a tout ça maintenant 5-6 ans, ça a été une expérience vraiment intéressante. C'était mis en scène par Pierre Grange et Philippe Vincent.
Cinéma d'auteur.
Oui, c'est ça. Et puis après, évidemment, ouais, voilà, j'ai fait quelques incursions dans la télévision, mais c'est pas ça qui me... Voilà, c'est pas là où je m'amuse. Le théâtre, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, les spectateurs changent. Alors ça, c'est la trouvaille. Hein. Ils font changer les spectateurs chaque soir. C'est pas les mêmes. C'est incroyable.
Sur scène, vous êtes toujours le même, c'est ça.
Voilà, donc la chose est différente aussi. Avec mes camarades, on s'applique à, voilà, à recréer cette histoire tous les soirs. Et non, ça nous tient bien en vie. J'ai pas peur de dire ça. Ça nous tient en vie, il me semble.
Ben oui. Et vous vous amusez beaucoup, on s'en est aperçu hier soir.
Oui, oui, on essaye, oui, on essaye. C'est ne serait-ce que pour montrer l'exemple, il faut s'amuser. Oui. On s'amuse. Bah, la pièce est très amusante. Il y a une chose qui se passe avec le public aussi. C'est le public qui révèle les choses. C'est dans l'écoute du public, de chaque individualité et de la somme de ce public. Que, voilà. Nous, la pièce passe ou pas. Elle passe différemment. Mais hier soir, vous étiez là. Donc,
oui. Le public n'était pas très expansif, mais oui, en fait, appréciait beaucoup.
Oui,
le
c'est ça.
Était très concentré, très à l'écoute. Ouais. Mais bon, il n'a pas forcément frappé dans les mains, joué la musique russe, mais c'est pas grave, mais on sentait qu'il y avait une grande écoute.
Exactement, et ça c'est agréable quand il est... C'est surtout ça, l'écoute. Après, c'est voilà, il ne s'agit pas de... C'est quelle qualité d'écoute, quelle qualité de rire, parce que quand on dit un public rit, un public écoute, oui, un public réagit, oui, mais
si ça ressemble à des trucs préenregistrés, comme à la télé, avec le chauffeur de salle, vaut mieux qu'il...
Oui, pas, hier, en fait, on sentait qu'il y avait vraiment une écoute sur ce qui se disait, sur ce qui se passait, sur la violence aussi.
Et qui a pesé, ouais, la gravité, la violence de cette pièce, qui est en fait une pièce de 1896 et qui est complètement, avec Firmin Gémier, le fondateur du TNP d'ailleurs, c'est peut-être un hasard si vous l'avez aussi réinterprété.
Oui,
c'est d'une violence, d'une charge pour le pouvoir, qu'il soit religieux, politique. On en reparlera plus précisément dans la deuxième partie de l'émission, mais elle approche dans 7 minutes.
Il faut peut-être une ultime question, je suis en train d'y penser. Vous évoquez à l'instant David Mambouche, tout à l'heure je...
Émission 57, Juan, TNP.
Hors émission, nous parlions tout à l'heure, également nous parlions d'Olivier Borle. Est-ce que la mise en scène vous tenterait, de la même manière qu'elle a tenté, je crois, ces deux jeunes gens? Il me semble qu'Olivier, avec la compagnie du Théâtre Oblique, a déjà repris un texte de Aimé Césaire, le cahier d'un retour au pays natal. Mmh. David Mambouche lui avait mis en scène le fragment, c'est ça, je crois, Don Juan, c'était tiré différents textes. Enfin, oui, mais c'est ça, je dis Don, alors que c'était même pas Don, c'était Juan ou Juan. Est-ce que vous, la direction d'acteur, la mise en scène, vous intéresse?
Oui, oui, ça m'intéresse. Enfin, moi, je pars toujours d'une œuvre. Par exemple, la dernière chose que j'ai faite à ce propos, c'est d'après le livre de l'intranquillité de Pessoa. Voilà.
Le livre du Desassossego. C'est très bien qu'on puisse le placer pendant l'émission.
Ah,
le livre
du Desassossego
de Fernando Pessoa.
Pessoa. Qui veut dire personne.
C'est les dédicaces.
Exactement.
Qui veut dire personne.
Avec le système des autorités hétéronymes. Vous l'avez mis en scène, ce texte, enfin,
voilà, c'est ça.
Magnifique texte.
Oui, c'est magnifique. Alors ça, mais c'est parce que voilà, je pars vraiment à chaque fois d'un texte qui m'intéresse pour voilà faire la mise en scène. Après, j'ai pas moi de compagnie, j'ai pas la structure, j'ai pas donc voilà. Si vous voulez, je crois, je suis assez hypertrophié, c'est-à-dire la mise en scène, je connais pas bien en fait. Je connais le jeu d'acteur, ça, enfin, je connais. Disons que c'est ce que je pratique, c'est l'exercice que je fais assez régulièrement. Mais la mise en scène, non, c'est pas. Ça, je crois que je pourrais pas faire de mise en scène. Ça demande trop de temps pour, ne serait-ce que pour organiser une structure. Hein.
Être acteur, c'est se diriger soi-même, et être metteur en scène, c'est diriger les autres un peu, non?
Oui. Être acteur, c'est se diriger soi-même, oui.
Écouter aussi, quand même.
Est-ce qu'on se dirige vraiment soi-même quand on est acteur? Ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dirigé par
Gérald,
par metteur en scène?
Les deux, c'est un aller-retour. C'est un aller-retour. On est à la fois cheval et cavalier un peu quand on est acteur. C'est-à-dire le cheval, bon bah voilà, est extrêmement intelligent. Il a de l'instinct. Il partira. Mais parfois, il est un peu.
Faut le brider.
Faut le brider. Il faut des fois un petit peu le tenir parce qu'il a des coups de sang qui sont toujours intéressants. Mais il faut quand même le tenir un peu. Il faut que le cavalier. Après, le cavalier a d'autres problème, il est intelligent, c'était vraiment pas un problème, parce que cette intelligence l'entrave parfois. Les acteurs sont entravés par enfin, moi je me sens entravé par une forme d'intelligence un peu comme ça, scolaire, je dirais presque.
Voilà. Cérébrale peut-être.
Cérébrale, voilà. Alors à un moment, il faut se défaire de tout ça, mais heureusement, effectivement, le metteur en scène, avec qui. Voilà, comme c'est le cas avec Christian, il y a une confiance, on peut se livrer. Et là, on va loin hein, dans le rapport avec l'autre, parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui vous dirige et en qui vous avez confiance, effectivement, on peut aller loin là, parce que c'est une question de proximité.
Ouais. Le metteur en scène, parfois, va chercher des choses que l'acteur ne soupçonne pas forcément d'avoir en lui.
Oui,
ça aussi.
Oui, ça c'est intéressant dans ce métier-là de faire sortir des sons dont on n'imaginait pas que voilà l'instrument puisse sortir ce son-là. Il y a un parallèle avec la musique où les musiciens de jazz qui disent justement que voilà dans une improvisation en jazz parfois des choses sortiront qu'ils ne pensaient pas qu'ils sortiraient. Oui, ça c'est l'intérêt aussi d'être acteur, c'est-à-dire de découvrir en soi des choses que l'on ne soupçonnait pas et qui ont à voir avec effectivement avec le monstre, le non politiquement correct. Enfin, c'est ce que dit Thomas Bernhard. Hein, que le théâtre ça se fait contre les droits de l'homme par exemple, dans Minetti il dit ça, le théâtre doit être contre les droits de l'homme évidemment à l'instant de la scène, oui, pour faire ce que Brecht montrait, c'est-à-dire montrer effectivement un miroir, et comme dirait l'autre, n'accuse pas le miroir si ta gueule est tordue, comme dirait, c'est-à-dire voilà, on montre finalement dans Les Purs Rois un miroir de ce que peut être le pouvoir à un moment.
C'est très important, ça, ce que tu disais, Isa, à l'instant, là, l'histoire du son. Moi, je lis une phrase de Jarry, il va sans dire qu'il faut que l'acteur ait une voix spéciale, qui est la voix du rôle. On va en parler, non?
S'il vous plaît.
C'est Pauline Noblecourt qui elle-même. C'est Pauline Noblecourt, conseillère, quel est son titre, conseillère artistique, conseillère littéraire, c'est ça, conseillère littéraire pour cette pièce. Pour cette pièce qui est Ubu ou presque, tu as une question, Gérald, encore sur le portrait de.
Mais on va développer cette question, mais on parlait de cérébralité, etc., de révélation d'une partie monstrueuse de soi-même en tant qu'acteur, peut-être. Et c'est un rôle parfait, justement, le père Ubu, pour mélanger tout ça et sortir de la cérébralité. C'est un rôle très physique.
Oui. Alors, on est aidé, et ça c'est vrai par rapport à ce que vous disiez sur la voix, qu'on est aidé par...
Merde, elle voilà, marche par... cette voix.
Il marche ça, il en fait des cochonneries sur scène. Hein, on va pas
Oui.
Révéler tout, mais...
Il faut revenir à un état presque anal. Il est resté au stade anal.
Oui, de toute façon.
Enfin, celui-ci, il est resté au stade anal. Donc voilà, faut pas avoir peur aussi en tant qu'acteur, des fois, de à la fois faire rire en se chiant dessus, mais pas que, parce que c'est peut-être drôle pour les autres, mais pour soi-même, c'est pas tellement drôle hein, quand ça vous arrive, j'imagine. De peur, parce que c'est un homme qui a peur.
Il a presque tous les défauts, finalement.
Il a presque tous les défauts.
Et très peu de qualité. Est-ce que nous écoutons Dick Annegard en parler, c'est ça? La chanson, elle porte...
On a écouté une cassette dans les studios de Radio Canu.
Est-ce que ça va fonctionner?
On l'a fait une fois.
Pour cette centième, presque 14h30, c'est très bien, on donne l'heure. À défaut de, vous l'aurez constaté, auditeur, hein, moi j'avais remarqué chez moi ce matin également, les bandes continues de Radio Canu ne diffusent pas. Donc heureusement que les émissions directes ont lieu, parce que sinon, c'est un peu antenne morte.
Problème technique.
Nous, c'est technique, hein, nous ne sommes pas... disons, pas encore gréviste de l'antenne. Pour l'instant, disons, on va essayer ça, peut-être que...
Classique de 74.
Peut-être que ça va lancer un grand blanc.
Auteur-compositeur-interprète Dick Annegard.
C'est une première à une cassette, Gérald, j'ai jamais essayé ça, donc écoutons...
ça va devrait marcher.
Ça s'appelle comment, tu as dit?
Père Ubu.
Ubu.
Ubu. Bon, alors essayons, et sinon, restez à l'écoute avec Spectaculaire Centième. C'est très spécial, tu m'en parlais, hein, je crois.
Oui.
Quand tu
auras brandi ton
papier. Avec
quelques annonces.
Mais très bien. Essayons Dick Annegard.
Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi, et chacun pour soi, il avait un tout petit et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odue, la mère Ubu. Et méchant, les deux emmerdants n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif ou vent avec un bazooka. Ils avaient un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odue, la mère Ubu. Le jour vena où Ubu et le roi se rencontra, twist ya ya ya. Après l'entrevue, un tout à cul, merde dit Ubu et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odue, la mère Ubu.
Très courte chanson de 1974, très, très célèbre, un des tubes de Dick Annegard.
Eh ben dis donc, qu'on a écouté en cassette, une cassette audio.
Donc on va en réécouter d'autres puisque j'ai un bon stock. beaucoup de curiosités.
Il fallait bien la centième de Spectaculaire pour quand même diffuser des cassettes. Et puis une centième que c'est quand même super, hein, on l'anticipait depuis quelques temps, elle est consacré au TNP, avec notamment cette pièce actuelle, Le Père Ubu, qui est une pièce, Ubu ou presque, avec le recul, moi j'ai trouvé ça génial. Quand vous intervenez, quand vous entrez sur scène, Stéphane Bernard, pour dire ce merde, c'est très bon. Et puis tout le reste, les nobles qui passent à la trappe, ou bien tout un tas de trucs. Isa, toi qui ne l'as pas vu, tu peux tout de même en parler, ouais.
Ouais, moi j'avais une question à vous poser par rapport au personnage du Père Ubu. Comment est-ce que vous avez travaillé ce personnage qui est quand même assez singulier comme personnage?
Ben, le costume m'a beaucoup aidé, comme une marionnette. Au départ, Alfred Jarry l'a écrit avec des lycéens à Rennes, et puis après il a retravaillé sa pièce, mais il l'a souvent fait en marionnette. Donc ça aide bien à mettre à distance cette espèce de monstre. Voilà, c'est ce que ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la voix, c'est-à-dire il faut trouver la voix du Père Ubu pour et de la Mère Ubu, et les autres aussi et des palotins pour raconter cette monstruosité, cette distance entre que la marionnette peut mettre dans un spectacle. C'est-à-dire, la marionnette elle arrive sans affect, elle est neutre et finalement tout le monde s'y retrouve. On peut se projeter dans une marionnette parce qu'elle n'est pas polluée par tout ce que l'acteur amènera de son ego, etc. Il n'y a que la marionnette. Donc ça m'a bien aidé quand la costumière Fanny Gamet est venue avec cette prothèse, ce ventre, tout de suite ça aide. Hein. Après il y a le texte, hein, le maire Dre, qui en fait change tout, quoi. C'est un bouleversement.
C'est le premier mot de la pièce.
Voilà,
la pièce commence là-dessus.
Et puis on en entend des merdres, hein, pendant le spectacle.
Oui,
une soixantaine peut-être,
oui. Ah oui, c'est constamment que le maire Dre. Et donc cette espèce de casse, c'est plus maire de, mais maire Dre. Donc ça grippe l'affaire. Ouais. Ça met de la distance. C'est déjà c'est énormément de choses dans le texte. Il y a énormément de choses comme ça dans le texte, des espèces de trouvailles linguistiques, gilou, gitoutu, gitoutu.
Et la prononciation accentuée à un moment des e à toutes les phrases.
Voilà, c'est ça. Au départ, il l'avait pensé, Jarry, pour des accents, hein, pour des Père Ubu avait l'accent bourguignon, des cornes gidouilles, des r qui roulent pour justement encore faire quelque chose d'un peu plus horrifique.
Colette.
Parce que le personnage est vraiment ambivalent, en fait. Il est à la fois monstrueux, parfois il est un peu tendre aussi, un peu en enfin.
Oui, ouais, exactement. Ça... Il y a la place pour être tendre, il y a la place pour être un enfant. Ces enfants auxquels on n'a rien interdit et qui deviennent des tyrans absolus. C'est-à-dire l'enfant soldat ou l'enfant à qui on donne une arme, quoi, et qui n'a pas de problème de morale, qui tuera.
Parce qu'il est, parce qu'il est tyran, mais en même temps, on sent qu'il est plutôt manipulé par sa femme.
Au début, il est manipulé, mais après, il s'en affranchit.
Ouais, après, oui.
Hein, au moment de la machine à décerveler, ouais, il s'en affranchit totalement, elle perd le contrôle sur lui.
Comme un Napoléon qui, au début, qui rétablirait l'esclavage dans les îles sous la demande de Joséphine, par exemple.
Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Non, mais il y a des analogies plein. Hein,
avec beaucoup de tyrans.
Ah oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que la pièce a eu autant de succès dans tous les pays, hein, parce que Ubu a toujours été dépeint comme Ceausescu, Iminda.
Bien avant tous les drames du XXe siècle, en plus, parce que la pièce est quand même de 1896.
Ouais.
C'est ça qui est quand même dingue, quoi. Elle est presque prémonitoire de tous les massacres du XXe siècle et de la folie de tous ces tyrans qui font la trame du XXe siècle, en gros. Hein.
Oui, exactement. La scène du décervelage avec la machine à décerveler a été effectivement souvent comparée à la solution finale. Enfin.
Oui, c'est ça, en fait. Hein. Mm. On voit très bien que il y a le meurtre de masse en filigrane derrière, et c'est ça qui est un peu comme un Bruegel dans Le Triomphe de la Mort. On voit déjà.
Oui,
des...
Bruegel. Bruegel, il fait vachement penser, je trouve, par le décor, par exemple.
Ouais, alors, et en même temps,
on
finalement,
en parlera plus du décor. Ouais.
Et en même temps, finalement, son ambition un peu débordante va finalement un peu le perdre, quand même, parce qu'au final, il est un peu perdu par cette ambition qu'il a de vouloir. Tout avoir comme ça, alors que...
La pièce finit un peu potache, on finit sur un bateau improbable, c'est un prétexte, la pièce finit sans vraiment de fin vraiment écrite. Hein.
Fin ouverte.
Voilà,
on peut imaginer, si on est pessimiste, qu'il va continuer ses méfaits.
Et puis, il y a une sorte d'empathie, alors, bizarrement, du public pour ce personnage-là. Donc après, il le suit, le public suit le Père Ubu, qui finit par dire que des blagues et des choses potaches. Alors que...
Ouais, c'est ça, un peu, c'est qu'il est, il est aussi monstrueux, finalement, qu'il est un peu tendre aussi, quelque part. On a un peu de la tendresse aussi pour lui, au final.
Est-ce qu'on pourrait peut-être un peu parler de l'histoire, ou ce n'est même pas nécessaire,
l'histoire est simple, hein.
Non, oui.
Le scénario, c'est, finalement, est vraiment, il tient à très peu de choses. Hein.
C'est quoi? C'est Hamlet? Non, c'est pas Hamlet, c'est,
oui,
c'est Macbeth.
C'est Macbeth,
c'est ça. C'est-à-dire, donc, une femme qui conseille à son mari de se débarrasser d'un calife à la place du calife.
Voilà, tout simplement. Et puis après, les guerres s'enchaînent, les péripéties, on pourrait dire quoi, picaresques, un peu.
Oui, bah oui, complètement. Des guerres avec les Russes, voilà,
Qui sont drôles. Parce qu'il y a alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'était un spectacle musical. Alors, ces chansons qui sont entraînantes, que le public apprécie beaucoup, qui sont très bien interprétées, on n'a pas dit, on parlera d'équipe, ils sont 10 sur scène, dont un batteur qui est en permanence ici, qui est aussi guitariste, qui fait du flamenco aussi. Voilà, ces chansons, elles font partie du spectacle ou elles ont été rajoutées
par... Ah non, c'est Marc qui les a composées.
Avec des textes en russe très très parodiques, très drôles, quoi. Les paroles du russe sont drôles.
Ah oui. Non, c'est lui qui a tout composé, s'inspirant
d'esprit.
De choses.
Oui, voilà. un peu jazzy, un peu viand, l'esprit. En fait, voilà, à la fin, vous êtes 10 à saluer. Bon, on va parler de l'équipe technique, du metteur en scène, Christian Schiaretti, mais voilà, 9 acteurs, dont 10, le plus avec le musicien qui est sur scène. Voilà. Et en fait, avec des comédiens acteurs qui prennent différents rôles parfois. Qui passent les coulisses, qui ont le temps de se changer. Il y a tout un travail qui doit être hyper chronométré, j'imagine, en termes de costumes, de changement de costumes, puisqu'il y a pas mal d'attributions différentes de rôles pour...
Ah oui, ça chôme pas. Derrière, il y a un spectacle aussi. Ça pourrait être bifrontal. Hein. On pourrait voir aussi se préparer le roi à quatre pattes parce qu'il ne faut pas qu'on le voit, ou le fantôme, les nobles, ou les palotins, ou le cheval qui se prépare à être cheval.
Avant de démissionner.
Oui, voilà. l'équipe est très soudée. Ouais. C'est un art collectif, hein. C'est aussi pour ça que moi
ça se sent beaucoup
le théâtre pour ça, cette espèce d'art collectif,
les lumières très travaillées, et alors le décor, on n'a pas parlé du décor. Quand le spectateur rentre dans la salle du TNP, la salle est éclairée, on voit le décor et déjà on se dit qu'est-ce que c'est avec ce truc, parce que c'est dans le texte de la plaquette, vous parlez d'une aire de jeu mélangée avec un avec une décharge publique, quoi. C'est un mélange d'air de jeu, décharge publique. C'est un chaos organisé,
un chaos infernal. L'impression même pour les acteurs, et je pense pour les spectateurs, est très forte d'un chaos qui est fatigant même, parce que tous ces déchets, c'est fatigant. C'est fatigant de pas avoir d'ordre. On est souvent, en tant qu'acteur, surtout ça change. Hein, on va marcher sur certaines bouteilles certains soirs.
Lancer certains projectiles.
Voilà, ça change tous les soirs. Mais c'est bien, ça donne la mesure. En fait, ce décor donne la mesure. Donne la mesure de ce qu'il y a à jouer, la violence qu'il faut déployer, le premier impact de cette pièce au début, quand ça a été joué, quand ça a été fait, et où le premier acteur a dit merdre, et où la salle a répondu mangre. Parce qu'il y avait eu, Jarry avait payé des gens pour applaudir si les gens sifflaient, et pour siffler si les gens applaudissaient. Tellement il voulait que ce soit un scandale.
D'accord. Ouais. Il a préparé un peu le scandale.
Voilà, il avait préparé un peu le scandale. Il fallait que quelque chose se passe. Ça, c'est bien en tant qu'acteur de se dire que quelque chose devant les spectateurs, pour eux, doit se passer. Quelque chose doit se passer. On ne doit pas être. Voilà. La routine serait insupportable dans toutes les pièces, hein, dans quoi que ce soit. Au théâtre, c'est pas possible. On peut pas. Le théâtre ne peut préexister et continuer d'exister que si y a ce phénomène-là du moment du live, quoi. Que va-t-il se passer?
Il y a le mangre, d'ailleurs, une des premières scènes, c'est quand même ce repas absolument ignoble. C'est un repas coprophage, quoi.
Il y a une brosse.
70 ans avant Salaud de Pasolini,
Tout à fait. C'est de la merde, on mange de la merde.
Ça. Voilà.
D'ailleurs, elle sort, Elisabeth Makoku sort, qui joue la mère.
La mère Ubu.
Sort une espèce de purée noire, immonde.
Dans une bassine qui finit par terre, renversée, en plus, partout. Non, c'est assez cracra, assez scato, hein, finalement.
Scato,
Mais pas gratuitement, on va dire.
C'est tout d'un coup au TNP, dans cette salle mythique du TNP, où au lieu de la culture quand même aussi, on peut aussi jouer Ubu, c'est-à-dire Jarry, c'est-à-dire la merde, le côté débraillé, le côté quoi, Il y a...
Mais en même temps, qui est devenu une pièce classique, finalement.
Exactement.
Comme Godot ou d'autres.
Classique, mais
finalement. Malgré son irrévérence, sa provocation, elle est rentrée aussi dans le patrimoine.
Oui.
Qui est le propre de la culture d'intégrer les pires subversions, etc.
Oui, oui, elle est devenue classique. Malgré tout, on sent chez le spectateur, dans le premier quart d'heure, un côté oulala, qu'est-ce que c'est, quoi. Ah. Et ça, ça a toujours été là. Hein. Michel Vinaver avait écrit un texte en disant qu'à Chambéry, quand il n'avait pas pu la jouer à Chambéry juste après la guerre parce que le public de oui. Chambéry n'était pas prêt à,
trop violent.
À cette violence-là.
En sortant de la guerre, c'est vrai que c'est pas un spectacle. Nous, la guerre, on la vit de loin, on va dire. Ouais, on la vit un petit peu, mais voilà, elle est loin. On peut se permettre encore ça.
Ouais.
Mais c'est vrai que si bon, on est dans un autre contexte politique beaucoup plus violent, c'est le genre de pièce qui passerait pas, qui serait même pas programmée, je pense.
Mais ça respecte quand même bien l'esprit, moi, il me semble. À la lecture, on sent peut-être pas toute cette violence, mais en fait, elle y est bien, elle est bien. Moi je pense à une question. On pourrait tout d'abord faire ce petit jeu que moi, je trouve toujours un peu intéressant, le name-dropping. Christian Sciaretti, Fanny Gamet, Marc Delay. Faudrait qu'on revienne sur ces différentes personnes. Christian Sciaretti, le metteur en scène. Eh bien non. Non, pour ce spectacle, il est directeur artistique, ou le spectacle est placé sous sa direction. J'ai évoqué ensuite Fanny Gamet, vous en avez parlé pour les costumes, mais c'est également elle, vous l'avez dit aussi, qui assure la scénographie. Et puis Marc Delay, qui est donc à la composition aussi, il est à la composition musicale, l'improvisation, avec c'est une batterie qu'il a, c'est ça ? Enfin, du moins, c'est guitare aussi.
Il a une batterie, mais il joue aussi de la guitare, il joue aussi de la trompette,
la basse.
Enfin, il est multi-instrumentiste.
Et donc, moi, je pense à cette question parce que c'est ce que tu as peut-être un peu demandé aussi, Gérald, tout à l'heure. Est-ce que tout est dans le texte ? Il y a quand même des choses que vous êtes allé rechercher ailleurs. Par exemple, la chanson du desservelage, je crois qu'elle est puisée. Il me semble qu'elle est tirée de plutôt Ubu Cocu. Et j'ai un texte sous les yeux. C'est pas possible. La chanson russe qui est interprétée par Clémence Longy. Chokhnosov, Katastrophe, Merdazov, Bulgakov, Romanov, Philosophe, Kasparov. Attention, le dernier. Ubu de Pardieu. Bon, ça c'est pas possible. Ça n'est pas Jerry qui écrit ça. Vous demandez également à être nommé ministre des Finances à Berlin. Merci.
Oui, mais ça, c'est pas dit.
Non, puis on voit. Pardon, j'ai rien. Bien sûr. Donc, une surprise.
Eh ben, Emmanuel, hein, c'est ça.
Ouais. Oui,
une surprise visuelle. Donc, qui est marrant, qui rattache. Bon, c'était pas nécessaire, mais ça rattache. Vrai,
moi, ma question, c'est
l'actualité,
c'est
quoi.
La préparation en amont. Comment ça s'est passé sur le plateau ? Donc, Christian Sciaretti n'a pas eu le même rôle qu'il a généralement de metteur en scène, comme pour on l'a évoqué, une saison au Congo, ou bien Coriolan, ou bien Par-dessus bord. C'était un peu différent cette fois-ci. Vous avez été un peu plus libre, ou en fait non ?
Il a quand même
dirigé.
Libre, c'est pas ce qu'il cherchait. Enfin, moi, je cherche pas la liberté, ou en tout cas je la perds jamais.
Mais il y a quand même ce nom de fatrasie collective qui apparaît un peu partout sur la.
Est-ce que ça existe d'ailleurs ? C'est pas un barbarisme, on dit, non ? Fatrasie.
Ça vient de Rabelais. Ça vient de Rabelais.
C'est bien ça, parce qu'il y a le côté rabelaisien aussi. Hein.
Exactement, mais ça vient du TNP, ou le ou presque, ça vient également du TNP.
Bah parce que c'est pas vraiment la pièce, c'est aussi il y a aussi du Ubu Cocu et du Ubu sur la butte. Donc avec des chansons qui sont voilà,
c'est du cervelage
et du fucking my wife.
Voilà,
il y a du De Niro
et voilà un passage de Casino. Il faisait pas mal l'analogie entre Ubu et le personnage que joue dans Casino, que joue le petit, la Joe Pesci, c'est-à-dire un homme qui petit, rondouillard apparemment, voilà, n'a pas de retenue. Donc c'est pas tellement qu'il est frais, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut vous tuer parce qu'il n'a pas de problème, il va avec ça.
C'est pas de l'immoralité, c'est de la moralité.
Voilà, c'est ça, il pourra...
C'est presque pire.
Ouais. Donc il a retrouvé cette violence par là, quoi, du personnage, par aussi cette référence à la pègre et à Joe Pesci.
Et Fanny Gamet travaillait avec vous
Gamet était vraiment avec nous et elle a. Enfin, ils ont pensé avec.
J'ai vu
Christian.
Apparaître des photos de maquettes. Il y a donc eu au départ.
Ah oui, ça a été pensé bien en amont, hein, bien sûr.
Je vous coupais, vous disiez avec Christian, donc il y a eu
entre eux déjà, entre Christian et Fanny et Pauline Noblecourt aussi, et puis aussi tout. Ils ont déjà réfléchi. Je pense que ça le travaillait. Il le disait, Christian, que cette pièce, il ne savait pas s'il allait la monter, mais pourtant, il en avait 4 versions chez lui. Donc, tout d'un coup. Et puis, on peut. Par-dessus bord, c'est aussi une histoire de merde hein, qui déborde. Hein.
Ah, bah là, pour le coup.
On cherche le papier toilette. C'est une entreprise de PQ.
Il a parlé à un moment. Mais pas longtemps. histoire de jumelles.
Oui, oui.
De machines à faire de la neige.
Oui, voilà, voilà.
Des résina.
Voilà, exactement.
Quelque chose m'intrigue en parcourant la plaquette, là. On voit Jérôme Toubiana clarinette, Johan Rochetta violon.
Ah, alors ça, c'est ceux qui ont enregistré la
bande,
musique,
voilà. De la musique.
Alors, il faut dire aussi les acteurs, hein, qui mes camarades, qui nous ont, qui font avec moi ce spectacle.
Hommage au théâtre, puisqu'ils interprètent plusieurs rôles.
Donc, oui, Elisabeth si Makoko est excellente.
Voilà.
D'ailleurs, on
voilà.
écoutera un petit morceau bientôt qui m'a beaucoup fait penser à elle. Ouais, on avait déjà écouté sur nos ondes, mais il est tellement beau et tellement proche des rentiers. On va simplement remplacer les rentiers qui passent à la trappe par des actionnaires. C'est merveilleux sur Radio Canu.
Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Oui, c'est une très bonne
pas
idée.
Pas mal d'insultes aussi.
Oui, bien.
Après les quatre barbus.
C'est déjà calé. Je lance tout de suite.
Ah, pourquoi pas.
Et puis nous continuerons ensuite. Nous égrainerons non pas des noms d'insultes, mais Stéphane Bernard s'est prêté à le faire, des noms d'acteurs, plutôt, les comédiens.
D'acteurs.
On essaiera de les évoquer.
Et puis on fera un petit bilan de la santé avec quelques statistiques et deux annonces.
Puis, il faut quand même poser cette question à Stéphane Bernard aussi. Comment lui-même a-t-il préparé ce Père Ubu? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de lectures, notamment les textes de Jarry qui s'appellent les textes relatifs à Uburoi? Enfin bref, vous aurez sûrement beaucoup à nous dire. Nous écoutons cette chanson qui s'appelle, ce n'est pas la chanson des cervelages, hein, Gérald, c'est je crois le Gilles de la Tourette.
Ils ont tous le syndrome de la Tourette dans
Gilles
la pièce
de la Tourette. Il nous reste encore 10 minutes à peu près pour parler de cette 100e émission, certes, mais pour parler aussi du Père Ubu, ou presque. Cette pièce qui est donnée jusqu'au vendredi 10 juin au TNP, 20h en soirée, une durée d'à peu près 2 heures, relâche les lundis, et dimanche est peut-être un horaire différent. On trouve la précision et on vous le donnera. Ah non, on relâche également les dimanches, m'indique Stéphane. Écoutons Brigitte Fontaine. Ona, voilà, je me trompe, Brigitte Fontaine.
Mesdames, messieurs et chers actionnaires, je tiens à vous dire, pute salope, enculé, couille canard, mal monté, branleur, picheuse, garce, suceuse, que le dernier conseil d'administration, fion, con, que, tête de nœud, sac à bise, chiot de bise, a décidé à l'unanimité, fils de pute, enfoiré, reluqué, mal baisé, foutre des chiens, fumier de lapin, de vous saluer. Grand couillon, merde, chier, con, pine, morue, trou du cul. À jeudi prochain.
Stéphane Bernard, vous vous apprêtiez en tant que bon Père Ubu et bon comédien, bon camarade, bon compagnon, à nommer quelques-uns des palotins, pas seulement, enfin du moins quelques-uns, oui, mais je dis même tous, puisque vous êtes combien en tout ? 7, 8 ?
Nous sommes 9 avec le musicien, ça fait 10.
Voilà,
avec Marc, ça fait 10, 10 sur le plateau, Père Ubu.
Voilà, Elisabeth Makoko qui joue ma mère Ubu. Julien Gauthier, qui fait le capitaine Bordure, Damien Gouy.
Et l'ours.
Voilà, ouais, et l'ours aussi.
Un bel ours.
Bravo à lui, parce qu'il fait chaud, sous l'ours. Voilà, Damien Gouy qui fait les palotins, qui fait le tsar. Voilà, Margot le mignon qui fait le bougrelas, le jeune bougrelas. Clémence Longy, ma camarade, qui était déjà dans Bettencourt Boulevard et qui l'a. Fait la reine, enfin tout un tas de choses.
Qui chante très bien.
Oui.
Qui a beaucoup de présence.
Ouais. Clément Morinière qui fait plein de choses aussi, le cheval, le roi.
Très bon aussi.
Ah oui.
Je l'avais vu dans le roman de Renard.
Ouais, très bien.
Il y a pas longtemps aussi.
Ouais. Non, tous des acteurs avec qui j'ai un grand plaisir de jouer. Maxime Pambert, qui joue aussi un palotin. Julien Tiffaine qui fait aussi. Aussi un camarade de longue date et qui joue aussi. Non, on s'amuse tous beaucoup. Voilà.
Uburoi.
Et Marc Delay, composition musicale, improvisation, batteur, guitariste, etc.
Ouais.
Donc, et puis les décors, très bien les décors aussi.
Ah ben on l'a dit, de Fanny Gamel.
La lumière, Julia Grand.
Ouais.
Travail corporel, Dimitri Maeger.
Oui, voilà.
Et puis des assistants, des stagiaires, la mise en scène, etc.
Ouais, le travail de Louise Vigneault, tout un... Ouais.
Et vous alors, Stéphane Bernard, votre travail en amont, est-ce que vous avez-vous beaucoup lu, fait des lectures, les lectures notamment de Jarry, les textes relatifs à Ubu, est-ce que vous avez, je ne sais pas, travaillé un peu la matière ou non, c'était le,
oui, oui,
le
si,
texte
si, si,
même
si, 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 j'aime bien un peu regarder tout ce qui se passe. Alors, Christian m'avait donné un livre sur la philosophie d'Ubu, qui est très très bien, ce livre, dont j'ai oublié le... J'aurais dû l'amener ici, l'auteur, mais c'est très intéressant. Quel point, c'est un philosophe, quel point il s'empare du concept du but, comme ça, de la gidouille, pour l'opposer à d'autres philosophies. C'est passionnant. Et ça, ça a été un texte qui a beaucoup inspiré Christian, qu'il m'a prêté. Je regrette de ne pouvoir vous donner l'auteur, mais voilà, c'est
ça.
Comme
peut ça peut se trouver.
Ouais,
la
voilà.
Philosophie
on
du but,
on trouvera la référence.
La philosophie politique et morale, peut-être.
Non, ça en parle, mais c'est. Et puis après, oui, effectivement, beaucoup regarder les choses, regarder des références, lire.
La pièce de Jean-Christophe Aperti sur Internet, je crois qu'elle est disponible.
Ouais,
vous l'avez regardée, elle est bien.
Je l'ai vue. Oui, c'est bien, Jean-Christophe Aperti. C'est bien parce que ça a
à broyer les bébés.
Voilà, tout le monde se souvient de ça. Tout le monde se souvient de ça, de ce bébé mis dans une machine à charge
à l'époque, sur les écrans de l'ORTF dans les années 60, je crois. Les premiers trucages vidéo analogiques.
C'était Jean-Christophe Averti, il faisait des choses.
Très bien. L'adaptation aussi du diable attrapé par la queue de Picasso aussi, plein de adaptations. Ouais. Sacré personnage.
Mais moi je me coule dans une chose avec ce que je suis, donc on peut pas tout regarder et tout.
Et le surmal alors, c'est quand vous le mettez en scène? Parce que le surmal c'est encore un degré
dans la
provoque.
Il y en a des pièces, Faust Troll, César Antéchrist, et puis les autres Ubu dont vous parliez.
C'est difficile.
C'est peut-être difficile à mettre en scène.
Ubu sur la butte, Ubu cocu.
J'ai été très surpris de constater que Alfred Jarry était mort à 34 ans, quoi.
Ouais.
Et aussi jeune.
Bah oui, ça.
Et il a une influence majeure sur Raymond Queneau, Eugène Ionesco, Boris Vian, et puis tout le courant pataphysique qui va jusque dans les années 60, 70, jusqu'à Oulipo et les papous dans la tête quasi.
Donc un seul mot à vous dire, auditeur, disons un seul mot. C'est en fait deux, comme ça je vous rassure, ce ne sera pas ce merdreux, ce sera plutôt allez-y.
Oui, voilà.
J'ai cru comprendre, il reste encore des
bienvenus.
1h50 qui passe
à la vitesse
de la lumière.
Voilà. Pas d'entracte, non,
vous
comme
serez
ça.
Les bienvenus.
Hop, c'est envoyé.
Et des éclairs de la guerre.
Alors, il reste ce soir, ce mercredi 1er juin jusqu'au vendredi 10, relâche les dimanches et lundis, c'est ça?
C'est ça.
Et c'est à 20h tous les soirs.
Ouais.
Place Lazare Goujon, Villeurbanne, métro, c'est quoi? Métro, gratte-ciel.
Gratte-ciel.
Métro gratte-ciel. C'est
et
très
vous allez à droite.
Il y a des stations de vélo. Il y a même le bus 69 qui passe. Il y a plein de choses. C'est très très bien. Gérald, 5
Christophe,
minutes.
Christophe, il me reste 5 minutes.
Une petite.
J'aimerais faire une chronique spéciale centième. Donc je me suis amusé, je suis pas du tout matheux, mais loin de là, vraiment pas matheux, mais j'ai quand même réussi à faire des statistiques et des pourcentages, pour la simple et bonne raison que sur 100%, je m'en sors quand même, j'y arrive. Donc sur 100%, après avoir consulté pendant 2 heures le blog de notre émission, que je vous invite à consulter, puisqu'il y a 100 émissions toujours en écoute, et
il marche bien,
qui pourront passionner les auditeurs et autres. Donc, j'ai fait des pourcentages.
Ah.
Sur 100 émissions, il y a 93% avec des invités. Ces invités ont 3 ans d'existence. Hein. Il faut rappeler que la première émission date du 7 mai 2013. Donc 3 ans d'existence. Plus de 150 invités en 100 émissions, de tous horizons culturels. D'accord. Alors maintenant, je vous pose une question à notre animateur chef, monsieur Christophe Rollin, fondateur de l'émission. Quel est le point commun entre les émissions 8, 15, 17, 19, 51, 64 et 97?
C'était des arts plastiques, du théâtre, de la musique.
Non. Eh ben, il n'y avait pas d'invités parce qu'ils nous ont posé des lapins, on n'avait pas réussi à trouver, surtout au début.
Ah bon?
Voilà.
Tant d'émissions que ça.
Quelle est la spécificité de l'émission 51?
Je sais.
C'est une
sorte
de bilan moral et financier, attention.
51, je t'aime.
51,
arrête d'être
7 janvier 2015.
Ah, émission anniversaire, oui. On avait fait écouter du Cabu.
Non, c'était l'attentat de Charlie Hebdo en direct qu'on a essayé de chroniquer, mais c'était difficile. Alors, 150 invités, dont combien par téléphone?
Oh, pas tant que ça, 2, 3, 4, 5, je crois.
2. Ouais. Alors attention, combien d'enfants ont parlé, ont fait de la musique à cette antenne
on a
3 ans d'existence et 100 émissions, combien d'enfants ou de préados?
Verazane et puis des choristes ou pas pour
Véramuse.
Véramuse.
4 musiciens de Véramuse, 2 choristes de la chorale de la maîtrise. plus la petite fille de peintre qui a pris la parole, qui était géniale, qui dessinait toute l'émission. Ça fait 7 enfants. Donc on reçoit les enfants, les vieux, tous les âges. Vous pouvez venir à Radio Canu, c'est de 7 à 77 ans, voire plus et avant.
Ouais, c'est ça.
Alors maintenant, parlons vraiment des choses. Les records, je finirai avec les records. Maintenant, les pourcentages. Donc j'ai souligné avec des codes couleurs, alors les émissions spectacle vivant, art vivant, musique, etc., art plastique, ou autres sujets. Donc mes statistiques sont les suivantes. 38%, donc sur 100 émissions, 38% des émissions ont été consacrées à la musique, dont 16% au baroque et la musique classique, hein, c'est pas mal. 10% à la chanson française au sens large, chanson. 1% rock, il va falloir qu'on fasse un petit peu mieux. Hein. 6% musique du monde, surtout italienne. 2% au jazz. 5% quand même à la poésie sonore, à la musique contemporaine. Hein. L'ensemble Tactus, les collectifs d'improvisation, etc. Alors, donc 38% musique. 13% art plastique. Plus photo, Benjamin Van Der Leek qui était venu deux fois. La revue Mercure Liquide qui relance son 11e numéro. Donc ça fait 13% d'art plastique, c'est pas mal, mais à mon avis c'est pas assez. 33%, 33% pour les arts vivants, donc 20, c'est très bien. 24% de théâtre, 7% d'opéra, c'est quand même pas mal.
C'est bien.
2% de danse, alors là il va falloir faire un effort, j'espère qu'Isa va nous aider.
Mais la danse à la radio.
Isa, j'ai oublié de préciser qu'on était deux au début et depuis 5-6 émissions on est trois.
Mais j'ai noté qu'il y avait 0% à la musique urbaine.
Apparemment, on attend.
Libre à toi, fais-nous venir des invités.
Donc 2% de danse. On avait eu le spectacle première avec des chorégraphes, Francis de Conin qui était venu parler de danse, c'est pas beaucoup, 2% de danse,
aussi, ouais.
2% de cinéma, Calzettoni, et une interview téléphonique avec le cinéma muet.
Ah ouais,
voilà, ça fait 2% pas lourd. Alors, autre thème, c'est 14%, alors là, faut que j'égraine. Littérature, poésie, Béatrice Machet, traduction, Le Clan du Farceur, poésie amérindienne. Le Conte, Cécile Bergame, conteuse. Littérature, Laurence Loutre-Barbier, La Dernière Chambre. La Vox Thérapie, Agnès Sauger, qui nous parle de la voix à la radio, c'est quand même pas mal. Coopération décentralisée avec Alphanzine, le projet continue, j'en profite pour vous dire qu'il y aura une expo le 20-24 juin à la mairie du 1er pour continuer le projet avec des artistes qui céderont 50% de leurs ventes à l'occasion de cette expo, 20-24 juin, mairie du 1er.
Louis Calaferte, tu la places où cette émission
sur... Alors Louis Calaferte, c'est littérature, c'était avec Clara Vincent.
Bon, très bien.
Et il y aura peut-être une prochaine l'année prochaine, parce que hier, au TNP, j'ai rencontré un prochain spectacle qui se joue à Rive-la-Pape sur Calaferte.
Bon, bah très bien.
Avec Fabienne, que je salue si elle m'écoute. On a déjà pris date, rendez-vous pour l'année prochaine, en octobre. Le Trabouloscope, les éditions libertaires, Salon Libertaire avec des anciens libertaires, on parlait de Bakounine et Kropotkine. La fête du Bal des Ardents avec Francis, qui est venu il y a 15 jours pour fêter la première fête de l'excellente librairie lyonnaise, le Bal des Ardents. 14% de sujets divers et variés.
Eh ben c'est très, très bien.
Donc voilà les statistiques et les derniers records. Quel est l'invité qui est venu trois fois de suite quand même?
Olivier est venu deux fois.
Jamais 203.
Olivier Borle.
Donc Benjamin Forel. A donné Didascalie. J'ai assisté au Didascalie la semaine dernière. C'était très intéressant et assez remuant et troublant. Et alors après, il y a les records des devenus, donc devenus de suite. Ah bah. Et d'ailleurs, j'invite les futurs invités à s'inscrire dès à présent.
Stéphane,
et à revenir, parce qu'on aime bien. Revenez quand vous voulez, Stéphane.
Le roi Christophe, serez-vous
alors Denis Lavant, deux fois Denis Lavant quand même. Benjamin Van Der Leek, deux fois. Martin Rode, chanson française. Martin, ses antécédents. J'en profite pour vous signaler que Martin est en train de financer un album duo avec Clara qui va être excellent. Appel à contribution.
C'est sur quoi?
Martin. Album de Martin.
Bien entendu, mais la plateforme participative.
Kiss Kiss Bank, etc. Oui, vous tapez Martin, vous trouvez. Aidez-le à financer son album. Ils ont beaucoup de talent, il faut qu'ils sortent leur album. Michel Fernandez, jazzman, excellent, deux fois. Olivier Borle, comédien, deux fois. Christophe Guilbeault, musique pour enfants, deux fois. Quentin Dubois, Tactus, deux fois. Et Franck-Emmanuel Comte, musique classique, baroque, deux fois.
Bon, c'est très bien. Stéphane Bernard, pour l'instant, c'est une seule fois. Il est 15h, moi je me dis qu'on a encore sûrement plein de questions à poser. D'ailleurs, je me demande...
Et d'autres statistiques élaborées.
Si les auditeurs...
La parité, par exemple.
Si les spectateurs souhaitent poser des questions. Je crois qu'il y avait une sorte de... une représentation qui avait été plus ou moins... qui était ouverte au public. C'était le jeudi 28 avril, rencontre après le spectacle avec les membres de l'équipe artistique. Là, le terme de cette série-là, pas de rencontre avec le public.
Non, pas de rencontre, mais c'est une rencontre. Le spectacle est une rencontre.
On peut vous attendre, brasserie 33, la brasserie, si on vous y attend, vous y passez après, non? Pas sûr.
Oui, mais après, c'est fini. La rencontre, c'est vraiment le spectacle, c'est là que ça se passe.
Eh ben, c'est très bien, c'est là que ça se passe. La centième est terminée.
Dernière petite annonce, oui. Michel Fernandez jouera bientôt, très 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 bientôt, il jouera le samedi 18 juin. à Saint-Georges.
Vous trouverez,
Brasserie Saint-Georges,
auditeurs,
toutes ces infos.
Vous trouverez beaucoup d'informations sur le blog. Vous trouverez également une version lue par le Théâtre de la Gamelle. C'est une autre des émissions de l'excellente, l'excellente grille des programmes de Radio Canus. C'est le vendredi à 13h. Eh bien, Stéphane, peut-être pourriez-vous l'écouter. Ils ont fait ça en deux émissions, donc c'est assez brillant. Je crois en deux heures, ils ont lu l'intégralité de Ubu Roy. Ils ont fait une première version, c'était je crois début mai. Ils ont fait les premiers, deuxième et troisième actes. Et puis deuxième version qui était il y a très peu de temps, il y a peut-être une ou deux semaines. Lecture, j'ai entendu, c'est intéressant. Ils zappent la dixième réplique sur le repas. Tas d'arabes, est-ce que ce que je vous sers n'est si pas bon que ça? Vous l'avez, vous, dans le spectacle?
Vous l'avez conservé. Tas de bachibouzouk.
Ah, c'est compliqué.
Pitanadok,
bachibouzouk. Wow. C'est un peu, c'est ça, les bachibouzouk, c'est au départ, ce sont des arabes.
Des soldats. Des régiments. Voilà. Comme les spahis. Voilà,
donc, auditeurs, allez voir le blog de la centième de spectaculaire. Allez voir le blog de spectaculaire pour avoir tout un tas de renseignements sur différentes choses. Et sinon, le principal, vous l'avez dit, Stéphane.
C'est un vrai débat, ça. Cette question-là.
Si vous souhaitez voir ce débat, allez donc sur la place Lazare-Goujon jusqu'au vendredi 10 juin. Vous avez l'occasion de voir ce. Comment le qualifier ? Cet ubuesque spectacle, ce beau spectacle, ce magnifique, facile, prodigieux, génial. Ouais, c'est vrai que c'est fastoche. Moi, j'ai quand même trouvé ça génial. Ah, on va dire c'est génial.
D'ailleurs, c'est quand même pas donné à tous les spectacles et tous les personnages de la littérature fantastique, on va dire, parce que qui sortent de l'imaginaire, de devenir des noms communs. On dit un procès kafkaïen, et puis on dit c'est un lieu ubuesque ou un spectacle ubuesque.
On en reparlera peut-être.
De la force de ces œuvres.
Peut-être. Ah non, pas sûr. Dans la 101e autoportrait avec Stéphane Pacou, conservateur au Musée des Beaux-Arts, nous parlons de cette exposition autoportrait de Rembrandt au selfie.
Ah, voilà. Stéphane Pacou, la semaine prochaine, on repasse aux arts plastiques.
C'est ça, exactement.
Pour augmenter le pourcentage.
Et puis le 102e, c'est Isaac qui s'en charge, musique urbaine. Vous verrez ça.
Pourquoi pas, tiens.
Bref, restez à l'écoute des programmes de Radio Canus, surtout qu'il y a un peu de. C'est un peu blanc à l'antenne. Pascal est bien présent pour le blues des Canus. Et puis voilà, nous remercions Stéphane Bernard.
Merci.
On vous souhaite
merci
une beaucoup, bonne série de représentations. Et puis on vous dit à une prochaine fois. Il reviendra, il faut qu'il revienne.
On peut revenir.
Quatre fois. Merci, Djamila, d'être passé.
Oui.
Auditeurs, restez à l'écoute des programmes de Radio Canus.
Tous ces gens qui nous aident à trouver des invités, on les remercie beaucoup. On remercie les invités de venir et tous ceux qui nous permettent de recevoir des gens intéressants.
Voilà. Merci
des
gens à tout le monde.
Qui ont des qualités artistiques, du talent et parfois injustement méconnus.
Pour aller au spectacle, mais pas dans la rue parce qu'il pleut, je crois. Ou voilà. Écoutez bien, merci encore tout le monde. Et puis on se souhaite encore 100 émissions, 200, 300.
Peut-être 1000 même.
Ciao, auditeurs.
À dans 10 ans.
Pour ciao. Salut. Ciao.